cours de philosophie du vivant par le père Philippe à Saint-Jeudard le 21 janvier 1989.
Nous allons continuer ce problème de la philosophie du vivant. Il y a eu pas mal de questions entre deux. Et je crois que nous étions restés après l'induction de l'âme, la découverte de cette source cachée, invisible, qui est sûrement un des gros problèmes d'aujourd'hui. Je demanderai à l'Esprit Saint de m'éclairer, de m'aider, puisque lundi soir, il va y avoir une espèce de dialogue avec le professeur Jean Bernard sur la bioéthique à Paris. C'est dommage que ça ne se fait pas ici, ce serait très intéressant. Et c'est pas commode, parce que justement, on voit très bien que ce savant, qui est un grand savant et qui est un savant, paraît-il, je ne peux pas juger, mais d'après les biologistes, c'est un des plus grands savants de France, au point de vue biologique. Très honnête, positiviste, mais paraît-il, d'après ses amis, petite ouverture. Toute petite ouverture vers le point de vue spirituel. Alors il doit y avoir une espèce de parallélisme entre l'approche de la bioéthique chez le biologiste et l'approche philosophique. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait le même mot. Ça, c'est ça qui est terrible. On peut parler de bioéthique aujourd'hui chez les savants, et quand le philosophe parle de l'éthique par rapport à la biologie, par rapport à la vie, c'est pas tout à fait la même chose. On prend des mots philosophiques et on leur donne une signification dans un prolongement scientifique. Que Gilson avait souligné avec Descartes dans son livre sur ce dictionnaire des mots de Descartes, que Descartes emploie les mêmes mots que la scolastique, mais donne à la scolastique, à ces mots, une signification qui n'est plus du tout la signification de la scolastique. Alors il y a équivoque. Eh bien, je crois qu'il y a un petit peu la même chose. Substance chez Descartes, le mot substance chez saint Thomas. On emploie le même mot, mais derrière on met autre chose. C'est ça qui est terrible dans le langage. Alors, bioéthique, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire éthique pour le philosophe? Pour les philosophes, l'éthique implique l'âme spirituelle. Ça, c'est sûr. Vous n'allez pas parler de l'éthique du chien. Oui, la boîte. C'est biologique d'aboyer. Oui, ça oui. Sûrement, la psychologie du chien est très proche de sa psychologie, de sa biologie. Parce que c'est l'état passionnel. Tandis que l'éthique philosophique présuppose l'âme et la personne. Et je vous ai déjà dit, bien arriver à distinguer petit à petit tout le problème de la personne et tout le problème de l'âme. Personne, on la décrit, c'est un pos, un comment, c'est une manière d'être, la personne. Tandis que l'âme, c'est un principe, c'est une source. On peut avoir une certaine connaissance affective de l'âme. On peut aimer son âme. C'est vrai. on a. En théologie, on dira qu'il y a l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est d'aimer son âme. Vous aimez dans la lumière de Dieu votre âme, puisqu'elle est créée par Dieu comme l'image de Dieu. Alors vous aimez votre âme. Et ne pas aimer son âme, c'est triste. Vous voyez, il y a un amour de soi qui est légitime et qui porte sur l'âme. Parce que aimer son corps plus que son âme, c'est triste. Et quand vous êtes dans une attitude positiviste, vous aimez votre corps, que vous palpez, que vous touchez. Votre âme, elle est cachée. Mais il y a un amour affectif de notre âme. Il y a une présence, l'intériorité. Puis il y a la connaissance philosophique de l'âme par l'induction. Il faut toujours bien distinguer les deux. Vous voyez ? Ne faisons pas cette distinction-là pour la substance. Est-ce que vous pouvez aimer votre substance ? Oh, ce que j'aime, ma substance. Oh, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire quand vous dites ça ? Oh, que j'aime, ma substance. Ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que votre substance, vous n'avez pas une connaissance affective. Vous voyez, là, vous pouvez peut-être saisir d'une manière plus immédiate, plus humaine. La différence entre substance et âme. Vous pouvez aimer votre âme d'une connaissance affective. C'est votre intériorité. Mais au noviciat, on vous apprend à aimer votre âme. Il faut très bien dire ça. Le noviciat, c'est l'école dans laquelle on apprend à aimer son âme. Puisque on essaie de découvrir notre intériorité en profondeur. Découvrir cette source cachée, jaillissante de vie, qui est notre âme. Tandis que je ne dirais pas qu'au noviciat, c'est l'école pour aimer votre substance. Non. Vous découvrez la substance si vous faites un peu de métaphysique. C'est même le point de départ de la métaphysique. Tant que vous n'avez pas découvert la substance, vous restez à côté des portes de la justice dans un langage de Parménide ne sont pas ouvertes. Et vous restez en deçà. Et dès que vous pénétrez en métaphysique, vous découvrez la substance. Ça, c'est cette source de l'être, de ce qui est. Une fois que vous découvrez l'âme, vous la découvrez comme source d'unité. Une multiplicité d'opérations. Depuis le fait de dormir, l'expérience du réveil, l'expérience qu'on est un animal qui a besoin de dormir, le soir, l'expérience de dormir, c'est le gosse, quand on lui dit qu'on voit ses petites paupières qui commencent à battre. Il veut rester là avec les grands. Alors, il fait des efforts inouïs. C'est touchant, tu vois. Il fait des efforts inouïs. Mais il a envie de dormir. Ma mère me racontait qu'au moment où il y avait cette influence de Rousseau, on ne voulait pas dire au gosse, va dormir. Ah non. On attendait qu'il s'écroule sous la table. C'était sous l'influence de Rousseau, pas contrarié. Alors quand les gosses roulaient sur la table, on les ramassait, on les conduisait et on les menait à leur lit. Parce qu'il ne fallait pas aller contre la nature, puisque aller contre la nature, c'était empêcher le gosse d'être parfaitement lui-même. L'expérience que nous avons besoin de dormir, besoin aussi de manger. Un petit peu le petit déjeuner pour que vous faites cette expérience le matin, que soyez davantage un vivant. Enfin, un vivant, il a besoin de manger. Chaque fois que vous avez besoin de manger, vous dites, je suis un vivant. J'ai besoin de manger, donc je suis un vivant. besoin de dormir, on a besoin de prier. Ah, là, c'est un autre vivant. Bon, toute la gamme, hein, nous l'avons vue. Une fois qu'on a découvert l'âme, on va découvrir que l'âme, principe radical. Parce que l'âme n'est pas principe immédiat de toutes mes opérations. Vous voyez, il y a quelque chose d'analogue, c'est très curieux, entre la substance et les 9 prédicaments. Ou les 10 prédicaments, mettez les 10, puisqu'au fond, la substance comme telle, comme principe, comme source, n'est pas un prédicament, elle est un principe. Les 10 prédicaments, et puis l'âme, et les 3 degrés de vie. Oui. Les 10 prédicaments, substance première, substance seconde, vous devez le savoir, ça. Quantité, qualité, et ainsi de suite. Sont reliés à la substance, tous, de façon différente. Nous l'avons vu, c'est déjà. Oui, la relation n'est pas reliée directement à la substance. Il y a le fondement. La quantité n'est pas reliée directement à la substance. Toute substance n'est pas nécessairement une substance qui implique la quantité. C'est relié à la substance composée liée à un monde physique. Donc les liens avec la substance ne sont pas tous les mêmes. Les liens de l'âme vis-à-vis des opérations vitales, puisque l'âme est source de ces opérations vitales, comme la substance est source des 10 prédicaments, n'est pas le même, vous voyez, on ne l'a pas fait ça. Ce serait intéressant de le faire au point de vue analyse philosophique. Ordinairement, on ne le fait pas. Et c'est curieux qu'on ne le fasse pas, parce que ça nous aiderait à mieux comprendre ce que c'est que les 3 degrés de vie. Pouvons-nous parler des 3 degrés d'être? Je pose la question, hein. Il faut se poser des questions pour mieux comprendre. J'ai dit 3 degrés d'être, vous voyez, en faisant le parallélisme. Ou il y en a peut-être 4, ou il y en a peut-être 5 degrés d'être. En regardant à partir de la substance les différentes modalités d'être. Il y en a une fondamentale, substance première. Il y en a une autre, absolument essentielle, substance seconde. La relation par liée directement, très extrinsèque. La qualité, c'est immédiate. La quantité, par le corps. Vous voyez, tous les degrés d'être. Et tous les degrés d'être sont reliés à la substance. Saint Anselme parle des degrés d'être. Saint Thomas parle des degrés d'être. Il faut ordonner c'est de degré d'être par rapport à la substance. Donc, posez-vous au moins le problème. Je ne le traite pas ici. C'est la métaphysique. Nous allons regarder, nous, ici, les 3 degrés de vie à partir des opérations plus ou moins immédiatement reliées à l'âme. Vous voyez bien le flux et le reflux. Hein, faut être très attentif à ça. Les opérations vitales, les diverses opérations vitales, peut facilement constater, c'est la multiplicité qui me conduit à l'unité. L'âme principe d'unité, l'âme source indivisible par rapport à la vie. Et puis le reflux. Une fois qu'on a découvert l'âme, j'éclaire les degrés de vie par l'âme. Exactement comme les divers prédicaments me conduisent à la substance. Et une fois que j'ai posé la substance, j'éclaire les 10 prédicaments par la substance. Ce qu'on n'a pas fait. Puisqu'Aristote ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. C'est très significatif. Là où Aristote arrête sa métaphysique, la métaphysique s'est arrêtée. C'est très très curieux, comme on est paresseux. On a, c'est fait déjà un effort énorme de découvrir la substance. Alors quand on a fait la découvrir la substance, on s'assied, puis on dit ça y est, j'ai découvert la substance. Ah mais non, vous découvrez la substance pour éclairer les 10 prédicaments. Et pour donner sur les 10 prédicaments toute lumière des degrés d'être. Et bien ici vous faites la même chose. Les diverses opérations. Ce matin, en vous réveillant, si vous avez réfléchi, j'espère, parce que je vous ai demandé de réfléchir quand vous vous réveillez, n'est-ce pas ? De faire vite, vite un acte humain, pas rester somnambule, hein, en disant jusqu'à la chapelle, je suis somnambule à la chapelle, on verra bien. Et puis on se met à genoux, et puis on continue à être somnambule du bon Dieu, n'est-ce pas ? Mais pas très éveillé. Une fois qu'on a découvert l'âme, on éclaire toutes ces opérations vitales dans la lumière de l'âme. Et alors, on distingue 3 degrés de vie. Alors, sur quoi reposent ces 3 degrés de vie ? C'est traditionnel, les 3 degrés de vie, hein, en philosophie, sauf chez les modernes aujourd'hui. Mais les modernes ont tout confondu. Ils ont perdu complètement ce que peut représenter l'acquis. Enfin, le patrimoine, il y a un patrimoine philosophique qu'on n'a pas le droit de dilapider. Et les 3 degrés de vie, c'est très ancien, c'est les pythagoriciens. Je crois que c'est les pythagoriciens, au moins en tradition grecque, qui ont découvert les 3 degrés de vie. Vous voyez, les pythagoriciens, c'est lié à l'aspect religieux. Les pythagoriciens faisaient des petites communautés religieuses intelligentes. Philosophique, en comprenant que c'était par le point de vue religieux qu'on atteignait la Sophia, la sagesse. Alors c'est eux qui ont découvert en premier lieu les 3 degrés de vie. Puis Aristote les a repris d'une façon très très philosophique, en voyant que les 3 degrés de vie, c'est tout simplement dans la lumière de l'âme. Je dis bien dans la lumière de l'âme. Oui, ce n'est pas une nouvelle induction, mais c'est une réflexion, une analyse à partir de la découverte de l'âme. On voit que les opérations vitales ont des liens plus ou moins immédiats avec l'âme. C'est-à-dire que l'âme étant unie au corps, on va voir que les opérations vitales vont avoir des liens essentiels avec le corps. Donc des liens essentiels. Le corps est présent dans ces opérations vitales. Ou au contraire, la séparation. Alors, l'opération vitale la plus radicale et la plus liée au corps, c'est ce qu'on appellera les opérations végétatives. Premier degré de vie, la vie végétative. La vie végétative, vous savez bien ce que c'est. Hein. Pas un grand mystère, la vie végétative. Si vous dormez, c'est à cause de votre corps. Et si vous avez envie de dormir, c'est à cause du poids de votre corps. Votre âme n'a jamais envie de dormir. Ce qui explique la petite lutte du gosse. Il désirait s'éveiller avec les grands. Non, c'est son âme qui grandit. N'est-ce pas ? Et puis le poids de la matière, le poids de la fatigue, c'est le corps. Ah, oh, est-ce que je suis fatigué ce soir ? C'est votre corps qui crie. Ah, ce que j'ai faim, c'est votre corps qui crie. Ah, ce que j'ai soif, c'est votre corps qui crie. Toutes les opérations de la vie végétative, elles sont substantiellement liées au corps. L'opération, on va voir ça, l'opération de la vie végétative la plus forte, c'est justement la génération. C'est une opération substantielle. Elle aboutit à un être nouveau. Donc elle est substantielle, cette opération. C'est celle-là qui commande toute la vie végétative, au point de vue du corps. Puis, vous avez l'âme spirituelle séparée. L'âme séparée, elle est toujours unie au corps. Il y a les opérations séparées. C'est l'intelligence, la volonté. Ce qu'on pourrait appeler les opérations spirituelles. le niveau spirituel de vie. Nous avons une vie spirituelle en nous. Spirituelle au plan théologique, au plan philosophique, n'est pas adéquat à surnaturel. Ce sont toutes les confusions qu'on fait aujourd'hui. C'est spirituel. Donc ça conduit à Dieu. Mais non. Nous avons en nous quelque chose de spirituel qui n'est pas nécessairement surnaturel. Faire de la métaphysique, c'est spirituel. C'est pas surnaturel. C'est pas nécessairement surnaturel. C'est ce qu'Aristote appellerait le divin. C'est curieux du reste. Les Grecs appellent ça le divin. Pourquoi ? Parce que c'est au-delà de la corruptibilité. Tout ce qui est au-delà de la corruptibilité, c'est le divin. Pour les Grecs. Oui, le mot divin prend des significations différentes. Ce serait du reste très intéressant comme petit topic de voir divin. Qu'est-ce que c'est que divin pour Platon ? Qu'est-ce que c'est que divin pour Aristote ? Qu'est-ce que c'est que divin pour les Pythagoriciens ? Qu'est-ce que c'est que divin pour Merleau-Ponty ? Qu'est-ce que c'est que divin pour Sartre ? Qu'est-ce que c'est que divin pour Freud ? Le même mot, encore une fois, porte des significations très différentes. Qu'est-ce que c'est que divin pour un chrétien ? Pour le chrétien, ce qui est divin, c'est l'au-delà du spirituel. C'est le surnaturel. Le divin en vous. Et on distinguera le divin du spirituel. Donc il y a une vie spirituelle en nous. C'est une vie qui est au-delà du corps. L'intériorité du vécu de ma vie spirituelle. Quand je fais de la métaphysique, quand j'aime vraiment, profondément, et quand je vais jusqu'au bout de cet amour spirituel, il y a quelque chose qui est au-delà. Oui, c'est pour ça qu'Aristote appelle le nous séparé. Il faut bien comprendre cette expression, le nous séparé, dit ça dans le De Anima. Le nous séparé de la matière, séparé du corps. C'est ça que ça veut dire. Séparé du corps. Donc, c'est une opération qui n'est plus liée au corps. C'est une opération intérieure, spirituelle. Alors, je vois tout de suite la grosse objection que vous ferez tout gros positiviste. N'est-ce pas ? Il dirait, mais toutes nos opérations dépendent du corps. La preuve, c'est que vous pouvez faire une petite opération très simple. Puis à partir de là, vous ne pouvez plus penser. Quand je suis arrivé à Fribourg, c'est en 1945, on avait été très secoués, parce qu'il y avait à l'hôpital quelqu'un qui, sans demander la permission du malade, faisait une petite opération, très simple ici, sur le front. On arrivait à supprimer, et alors... Il était entré comme un vieillard grincheux et il sortait comme un gosse. Oui, le vieillard grincheux, pas commode, hein, dans la famille. Alors on amenait ce vieillard, oh, il est de mauvaise humeur tous les jours, il est grincheux, on en a par-dessus la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Docteur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ne vous inquiétez pas, on va lui faire une petite opération. Alors il faisait une petite opération, il sortait comme un gosse de 4 ans. C'est plus facile de mener un gosse de 4 ans qu'un vieillard grincheux. Donc c'est un progrès. Il faisait une petite opération. Et là, c'était le cagatisme. Vous pouvez répéter, oui. Il mangeait, il buvait, il dormait. Et puis il fumait peut-être un peu. Mais pas grand-chose d'autre. C'est rien d'autre. Oui. Alors on dira, voyez bien. La vie spirituelle dépend du corps. Vous touchez certaines connexions nerveuses et vous faites que vous avez quelqu'un qui ne peut plus penser, qui vit selon ses instincts, qui vit comme une plante. La vie végétative, la plante, elle vit la vie végétative. Alors, comprenons bien, quand on dit le nous séparé, ça ne peut se comprendre qu'au niveau philosophique. Au niveau psychologique, où je regarde l'exercice de l'intelligence, de la volonté. L'exercice de mon intelligence et de ma volonté sont toujours liés à l'imagination. Je ne peux pas faire un acte d'intelligence sans que l'imagination coopère. Et pour saint Thomas, même toute ma vie surnaturelle, même quand le Saint-Esprit est là et qu'il me donne une opération tout à fait divine, l'imagination coopère. Extraordinaire, ça. Donc, puisque dans l'ordre de l'exercice, l'imagination est présente, je peux très bien stopper ma vie intellectuelle et l'exercice même de ma vie divine. Ça, très mystérieux. Hein. Très difficile de savoir qu'est-ce qu'il faut comme minimum pour que ma vie de foi, ma vie d'espérance et ma vie de charité puissent s'exercer. Vous voyez, chez les handicapés, c'est le problème des handicapés. Qu'est-ce qu'il faut comme minimum d'imaginaire pour que cette vie divine puisse s'exercer? C'est très difficile à répondre, hein. Parce qu'il s'agit là d'un point de vue psychologique, donc d'un point de vue d'expérience. Il semble bien que certains handicapés qui n'arrivent absolument pas à l'abstraction, cependant, s'ils sont baptisés, arrivent à poser des actes de foi. Oui, le support de notre vie théologale réclame est plus minime que le support de notre vie intellectuelle. Autrement dit, pour que mon intelligence puisse s'exercer, il faut quand même que mon cerveau soit suffisamment développé. Vous savez bien, si au moment de la naissance, il y a eu un handicap, toute votre vie, le développement intellectuel sera minable. Il y aura un handicap pour que la vie intellectuelle puisse se développer. Il faut quand même que mon imagination soit suffisamment forte pour que mon intelligence puisse se développer. Tandis que pour que la foi puisse s'exercer, il faut un minimum d'exercice intellectuel et un minimum d'exercice imaginatif. Alors, quelle est la dimension? C'est très difficile de le savoir. Mais ce qu'il faut bien comprendre, vous voyez, c'est que quand je dis la vie intellectuelle est au-delà du corps, c'est du côté de la spécification de ma vie intellectuelle. Quand je dis spécification, je veux dire détermination. Je veux dire son objet. Je suis capable de connaître l'universel. Et l'universel n'implique aucun lien avec la matière. Il est abstrait de tout individu. Puisqu'il est abstrait de tout individu, est universel. Il est donc, dans son caractère spécifique, au-delà du corps, au-delà du caractère individuel du corps. Mais cependant, mon opération intellectuelle, dans son exercice, sera toujours liée à la matière. Et ça, c'est capital de le comprendre. Si vous faites cette petite distinction, vous ne serez jamais gêné devant les positivistes. Ça ne veut pas dire que vous les convertirez. Ah, ça, non. Je crois qu'il faut le Saint-Esprit convertir un positiviste. Et il faut qu'il y aille fort, vous savez. Parce que un positiviste, ça, c'est terrible. On a tous, un petit fond positiviste aujourd'hui. Hein. Il faut que le Saint-Esprit, pendant le noviciat, prenne la paille de fer. Oh là là. C'est irresponsable qu'on a tellement de peine d'entrer dans la métaphysique. C'est à cause du positivisme qui est en nous. Parce qu'on est tout le temps à vouloir toucher, palper. Des quantités de psychologues sont positivistes. Les psychanalystes freudiens sont positivistes. Quand on leur parle d'un principe intellectuel, et montrez-le-moi. Moi, j'ai envie de leur répondre, montrez-moi votre science psychanalytique. Vous ne pouvez pas me la montrer. Alors quand on leur disait, ah tiens, j'avais pas pensé, mais ça prouve que vous n'avez pas pensé à votre science. C'est-à-dire que je me souviens très bien, c'était à Lausanne, un très bon physicien, un peu curieux du reste, point de vue psychologique, mais ça fait des très bons physiciens. Il avait dit, pour moi, l'épreuve de Dieu, c'était pas tout à fait juste, mais dans sa manière, c'était assez intéressant. Pour moi, l'épreuve de Dieu, moi qui suis physicien, qui touche toujours la matière, elle dit, mais votre science physique, elle n'est pas matérielle. C'est très vrai. La science physique n'est pas matérielle. En tant que science, elle est au-delà de la matière. Alors, c'est le point de départ, vous voyez, pour montrer le nous séparer. Parce que l'objet de la science physique implique l'universel. Pas de science sans l'universel. La loi est universelle. Quand vous pensez une loi, vous pensez quelque chose d'universel. Donc c'est quelque chose qui est au-delà de la matière. Vous voyez ? Alors vous avez ce divin qui est spécifiquement au-delà de la matière et qui, dans son exercice, implique la matière. Donc faites bien cette distinction entre ce que représente la cause formelle et la cause efficiente. La cause efficiente est toujours liée au devenir, donc liée à la matière. Tandis que la cause formelle peut être au-delà du devenir, au-delà. Donc, voilà les deux extrêmes de ma vie. Toujours, quand il y a deux extrêmes, il y a quelque chose d'intermédiaire. Le troisième degré de vie, c'est celui qui est lié au corps et qui pourtant est ordonné vers l'esprit. Et ce sera ce qu'on appellera la vie sensible. La vie sensible n'est plus substantiellement liée à la matière, tandis que ma vie végétative est liée substantiellement à la matière. Ma vie sensible n'est que fondamentalement liée à la matière. Elle n'est pas substantiellement liée à la matière. Et ma vie spirituelle est, elle, séparée de la matière. Voilà les trois degrés de vie que je puis facilement découvrir dans la lumière de l'âme. La vie végétative, prolongement de la matière. Et j'ai le sens de la matière par ma vie végétative. Ça, c'est très net. Hein, la grosseur des tartines, c'est quantitatif. Je prends tant de morceaux de pain le matin et je les ai bien comptés. Et s'il y avait une petite balance, j'aurais pris tant. Et puis, parce qu'on faisait ça dans le temps, quand on jeûnait, alors on avait le droit à tant de grammes de pain. Pas sec, c'est évident. Et de café noir, c'est évident. Maintenant, tout ça a changé. Heureusement, tu sais, c'était le XVIIe siècle qui allait jusque-là, la formalisation du jeûne. Alors, tant de pain, ils étaient préparés. Voyez ça. Vous avez le droit de prendre une petite part. 300 degrés, 300 grammes. 300 grammes de pain. La quantité joue dans ma vie végétative. Hein ? Alors, quand il s'agit d'un repas très substantiel, n'est-ce pas ? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, quantitatif. La vie végétative est quantitative. Elle est liée à la matière. Ma vie spirituelle, totalement séparée. croyez, hein, ce que les anciens disaient, post-chéboum. Après un repas de vie végétative très substantielle, c'est très difficile de faire de la métaphysique. On s'endort. C'est très difficile. C'est le poids de la quantité qui vous empêche de dépasser le point de vue du corps. Bon, on en fait tous l'expérience. Un cours de métaphysique, après un bon repas de fête, à 2h de l'après-midi. Non. Ça ne décolle plus. Il y a trop d'essence dans le moteur. Ça ne décolle plus. Impossible. C'est impossible de décoller. Parce qu'on ne peut plus arriver au nous séparer. On est trop lié à la matière. La vie sensible, oh, elle existe encore. Parce que la vie sensible reste liée à la matière. Et cependant, la vie sensible a quelque chose de très particulier. La connaissance. L'affectivité sensible. Les passions. C'est tout le domaine des passions et tout le domaine de l'affectivité, de tout le domaine de la connaissance sensible. Et bien, la vie végétative, la vie sensible, est essentiellement une vie intermédiaire. Fondamentalement, elle est liée à la vie végétative, fondamentalement. Et dans sa finalité, elle est ordonnée à la vie spirituelle. Donc voilà les trois degrés de vie, vous voyez, qui se prennent, les deux extrêmes, puis le métaxu, l'intermédiaire. Les trois degrés de vie. Nous allons maintenant essayer de voir ces trois degrés de vie. Mais voyez, avant, comprenons bien, c'est la même âme qui est source des trois degrés de vie. Mais cette âme n'est source de ces degrés de vie que par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les puissances de l'âme. On doit poser les puissances de l'âme pour rendre raison, pour analyser ces diverses opérations vitales. Différentes puissances de la vie végétative, de la vie intellectuelle, spirituelle et de la vie sensible. Alors, regardons tout de suite la vie végétative. Alors, vous prolongerez cette étude de la vie végétative en réfléchissant pendant votre petit déjeuner à ce que représente la vie végétative. Tous les jours, en prenant votre petit déjeuner, faites une réflexion sur ce que représente la vie végétative. Respiration. C'est important, la respiration. Aristote n'en parle pas beaucoup, mais aujourd'hui, on doit en parler beaucoup. L'Inde a beaucoup réfléchi sur la respiration. Premier souffle de l'enfant, quand il commence à avoir son autonomie. Tant qu'il était dans le sein maternel, il n'avait pas son autonomie vitale. La respiration. Vous voyez, toutes les angoisses sont liées à la respiration. C'est très curieux, il y a un lien de ma vie humaine avec ma vie végétative. L'angoisse de ne plus pouvoir respirer. C'est l'angoisse la plus fondamentale, ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas descendre dans des cavernes. Ils seraient incapables. Le mineur, l'ancien mineur, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, le mineur, qui à partir de 14 ans, dans le nord de la France, les pays de mines, on est rencontré un autre jour, ça m'a beaucoup intéressé de le faire parler là-dessus. Il m'a dit qu'il avait descendu dans la mine à 14 ans. De 14 ans à 45 ans, il a vécu à 600 mètres en dessous du niveau. Et tous les matins, à 14 ans, il faisait ça. choix. Quand il avait 45 ans, il avait quand même envie de s'en libérer. Descendre. Eh bien, il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Ils ont des phobies. La claustration. Et c'est lié à la respiration. Ça a besoin d'air, quoi. Ça a besoin d'ouvrir la fenêtre. Et ce vieux médecin qui disait tous les matins, faites 3 exercices de respiration. Vous n'aurez plus d'angoisse dans la journée. En ouvrant la fenêtre. Après votre acte d'adoration. Après votre acte d'adoration, respirez. La fenêtre ouverte en faisant attention de ne pas avoir mal, attraper froid. Et ça ne fait rien. La respiration, c'est capital. Parce que c'est là où le vivant commence à avoir son autonomie. Mais vous êtes par le point de vue de la respiration. Alors il y a des techniques de respiration, mais ça c'est important, c'est secondaire, vous voyez. Philosophiquement, la technique n'est jamais très intéressant. Si c'est la technique, très bien. Mais ce qui est intéressant, c'est la respiration. Qu'est-ce que c'est que respirer? Vous comprenez, qu'est-ce que c'est que respirer? C'est faire que l'oxygène extérieur devienne intérieur. C'est le passage du milieu. Le vivant a toujours besoin d'un milieu de vie. Et je suis dépendant de ce milieu de vie. Et la vie végétative me lie fondamentalement à ce milieu de vie. Le milieu de vie premier, c'est l'oxygène. La pollution de l'air. Vous voyez, la pollution de l'air, qu'est-ce que c'est? C'est que ce milieu vital n'est plus un milieu vital. Il me donne plus ce que j'ai besoin. Alors on est obligé de mettre des postes d'oxygène, avec des 3 sous, puis il faut respirer. Un peu, autrement vous allez vous asphyxier. On arrivera à ça, vous savez, dans les villes on arrive, ça, au Japon. On a besoin de respirer. Eh bien la respiration, c'est le lien du vivant, de l'homme, puisque c'est l'homme, hein, la vie végétative. La vie végétative de la plante, j'en ai pas beaucoup conscience. Je projette l'expérience que j'ai de ma vie végétative sur la plante ou sur l'animal. Oui, le chien, quand il se réveille, il bat. Il ouvre sa bouche, extraordinaire. Et pour respirer ou pour projeter à l'extérieur ce qui n'est pas bon et qui risque de l'asphyxier. Parce que si on respire jamais, on s'asphyxie. C'est sûr. C'est une chose très étonnante, hein, de l'équilibre avec le milieu de vie, la respiration. La respiration, c'est le premier acte de vie végétative où on assimile. Vous voyez, l'assimilation. J'assimile. J'assimile l'oxygène et je rejette tout ce qui risque de m'asphyxier. Vous voyez, comme c'est curieux, c'est très curieux philosophiquement, vous voyez, au point de vue de la science, oui, on verra, on étudiera exactement ce qu'il faut pour un milieu vital. Et quand le milieu vital n'a plus tous ses produits, il risque d'asphyxier. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder pourquoi ça. Comment se fait-il que l'animal a besoin d'un milieu vital pour que ce milieu vital le régénère? La respiration, c'est notre petite naissance. C'est évident. Vous êtes né le jour où vous avez commencé de respirer. Votre respiration est venue après votre naissance, c'est sûr. Mais c'était le signe que vous étiez autonome. Et à partir de là, vous avez eu une autonomie qui a permis de discerner l'oxygène que je peux assimiler et tous les produits toxiques. Voyez ce que c'est que l'abstraction au niveau végétatif. Cette séparation instinctive qu'on fait entre tout ce qui est assimilable et tout ce qui est toxique. et le jour où vous ne faites plus cette distinction entre l'assimilable et le toxique, vous assimilez le toxique, plutôt vous ne l'assimilez pas. Vous vous encombrez du toxique. Et en s'encombrant du toxique, vous ne vivez plus. Il y a une situation limite. La situation limite, c'est quand vous assimilez plus. Alors, il y a une distinction qu'on fait entre le toxique et ce qui est assimilable. Et cette distinction, vous la faites instinctivement. Vous n'y réfléchissez pas. Ça fait partie de votre vie végétative, votre vie animale. Ça fait partie de votre semovere. Le vivant, c'est celui qui se meut. Eh bien, où est-ce qu'il se meut? En assimilant. Le se pouvoir, c'est assimiler. Au contraire, les produits toxiques, tout ce que je rejette, c'est très curieux, ça. Le vivant a besoin d'un milieu, mais ce milieu n'est pas lui. Et donc, il fait, à l'égard de ce milieu, un discernement. Ce n'est pas un jugement, mais un discernement. Ce qui est assimilable, ce qui n'est pas assimilable. Alors vous avez cette réalité.